Nous allons commencer par lire la parole de notre Dieu à Éphésiens chapitre 5. Nous lirons des versets premiers. Nous nous arrêterons pour la première tranche de lecture au verset 6, au verset 7 plutôt. Éphésiens chapitre 5, verset 1er à 7. Je vous invite à ouvrir votre Bible et on va faire cette lecture ensemble ou bien à l'unisson, cela dit, mais avec votre micro bien évidemment fermé pour s'assurer d'éviter toute cacophonie. Lisons ensemble. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, dès le Seigneur bénir sa parole. Marchez dans la charité. Paul, au chapitre précédent, en l'occurrence le chapitre 4, nous a dit de ne pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous l'avions vu ensemble. Leurs œuvres, c'est le mensonge, c'est la colère, c'est le vol, c'est les paroles grossières. En un mot, la marche des païens est caractérisée par, d'après ce que Paul nous enseigne, la marche des païens, d'après le chapitre 4, est caractérisée par tout ce qui est susceptible d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. C'est essentiellement ce que Paul nous a dit en quoi? En 32 versets. Vous vous rappelez fort bien. Ce que Paul nous dit dans c'est qu'il y a deux façons de marcher. On marche comme des païens ou on marche comme des chrétiens. Il n'y a pas de position mitoyenne. Il n'y a pas de position intermédiaire. De la même manière qu'il y a deux manières de mourir, il y a deux manières de vivre, il y a deux manières de passer, de commencer sa journée, il y a deux manières de terminer sa journée, mais il y a deux manières de marcher. Il y a deux manières de terminer sa journée. On termine sa journée dans la prière ou sans la prière, ou en dehors de la prière. Il y a deux manières de commencer sa journée. On la commence dans la prière ou en dehors de la prière, c'est-à-dire sans la prière. Il y a deux manières de vivre. On vit pour Christ ou contre Christ. On vit avec Christ ou sans Christ. On vit en Christ ou en dehors du Christ. On meurt sans Christ ou on meurt avec Christ. De la même manière, il y a deux endroits où passer l'éternité. Où on passe l'éternité en enfer, où on passe l'éternité dans le paradis. Il y a deux manières également de marcher. Où on marche comme l'Église, où on marche contrairement à l'Église. C'est ce que Paul est en train d'expliquer dans l'ensemble, dans au chapitre 4, versets 1 à 32. Alors, il a bien, avec toute la finesse qu'on lui connaît, il a bien pris le soin de camper la marche des païens. Vous vous rappelez très bien, avant qu'il ait pu dire, mais vous, mais toi, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, vous vous rappelez? Il a essayé de tracer la ligne de démarcation, la frontière entre la vie païenne sans Christ et la vie ecclésiale, la vie chrétienne avec Christ. Et arrivé au verset, il continue de préciser, hein? Il continue de préciser sa pensée sur l'inspiration, le contrôle, l'autorité, la supervision de l'esprit, quand il dit au verset de but en blanc, hein, avez-vous remarqué? Quand il dit au chapitre 5, d'emblée, hein, marchez et devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et il précise, marchez dans la charité. Bon, vous savez que la charité est synonyme d'amour. Marchez dans la charité, donc. Il y a des versions qui parlent de charité, d'autres qui parlent d'amour. Dans l'Écriture, la charité, c'est l'amour. L'amour, c'est la charité. Alors, c'est très, très bien important de voir cela. Hein? Comment devrions-nous marcher en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église? Parce que nous parlons de marche de l'Église. Bon. Ce que Paul a dit au chapitre 4 donne un certain niveau d'éclairage. C'est ça que je vous ai fait remarquer, hein? Et ce qu'il va dire au chapitre 5 va donner un autre niveau d'éclairage supérieur. Il va apporter plus de précision. Il part du général pour arriver au particulier. Paul utilise la méthode déductive. C'est comme ça que Paul travaille, comme ça que Paul écrit. Alors, c'est ça, il précise davantage sa pensée et biblique, sa pensée et spirituelle. Comment devrions-nous marcher? Ouais, on ne veut marcher d'une manière contraire aux païens. Bravo. Mais quoi d'autre? Comment devrions-nous marcher? Mais nous devons marcher dans la charité. Dans l'amour. La marche de l'Église est une marche dans la charité. Ah, vous pensez, pasteur, t'as quitté le sujet, à aller passer de l'autre côté? On est toujours là-dedans. Et au contraire, ça se précise. La marche de l'Église est une marche dans la charité. J'ai entendu une machine qui vient de faire savoir qu'elle est là. Et voilà, en marchant dans la charité, eh bien, nous sommes des imitateurs de Dieu. Notre vocation, c'est d'imiter Dieu. Ah, notre vocation, c'est d'imiter Dieu. Dieu est notre Père. Notre vocation, c'est d'imiter Dieu. Vous avez élevé des enfants, pour la plupart d'entre vous, vous avez élevé des enfants, enfin, pas élevé des petits-enfants, mais vous avez vu des petits-enfants grandir, des neveux, des petites-neveux, des petits-neveux, des petites-nièces grandir. Hein? Ils apprennent en nous voyant faire. Ils apprennent à parler en nous voyant parler. Ils apprennent à agir en nous voyant agir. Ils apprennent à interagir en nous voyant interagir. J'ai des souvenirs assez patents dans mon esprit quand mes enfants étaient gosses, quand ils étaient bébés. Des fois, on les voyait nous observer d'un œil attentif. Ils regardent ce que nous faisions, comment nous le faisions, pour que eux le fassent et le fassent de la même manière que nous le faisons. Les enfants, tous les enfants dans toutes les cultures, hein, dans toutes les races, dans toutes les familles grandissent comme ça. Et c'est la raison pour laquelle si tu prends un petit enfant, tu le fais grandir avec un lion, mais il va ressembler avec un lion. Et parce que l'entourage est important. Mais ici, c'est se précise plus. C'est plus que l'entourage, c'est Dieu, notre Père. Mais le petit garçon a tendance à imiter son père, la petite fille a tendance à imiter sa mère. On enseigne ça aussi en éducation, dans les facultés d'éducation. Tout ça, c'est pour dire que nous sommes appelés à imiter Dieu. Dieu est amour, mais nous sommes appelés en tant qu'Église, à marcher dans l'amour. Et à chaque fois que je parle de ce sujet, j'aime toujours et mettre l'accent sur cet élément-là. Alors, la réflexion, c'est bien beau. On peut toujours faire des réflexions. On est des gens réfléchis. Dieu nous donne de l'intelligence, Dieu nous donne de l'entendement. On peut réfléchir, mais avant tout, il s'agit de d'imiter, on dirait même de copier notre maître. Hein? De copier notre maître. Le Christ a vécu parmi nous une vie d'amour. Il est mort dans l'amour, il est né dans l'amour, il a vécu dans l'amour. Nous l'avons vu dans le jardin de Gethsémané. Il a vécu dans l'amour. Alors la caractéristique principale, l'essence dominante de notre Dieu, c'est la charité, c'est l'amour. La marche de l'Église se fait dans un contexte d'amour. C'est la première caractéristique de l'Église, l'amour. Vous êtes tous des gens qui ont l'amour, qui pratiquent l'amour. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que Christ vit en vous. Si Christ vit en vous, vous n'avez comme pas le choix de vivre une vie d'amour. Et Dieu ne nous demande pas ce qu'il ne nous a pas donné. Dieu ne nous demande jamais ce qu'il ne nous a pas donné. Il a mis son esprit en nous. Hein, on a étudié ça ensemble. Nous sommes scellés du sceau de l'esprit. L'esprit vit en nous. Et parce que l'esprit vit en nous, mais c'est toute la Trinité qui vit en nous. Ils sont inséparables. Alors, ce que Paul nous appelle à faire, c'est quelque chose de possible. Nous sommes capables de vivre une vie d'amour, de marcher dans l'amour. C'est le défi pour chacun, c'est de laisser cette vie d'amour, eh bien, se manifester pour laisser manifester Dieu. Hein? Et l'amour dont il est question ici, ça a déjà été mentionné à une autre occasion, c'est l'amour volonté. Ah, l'amour volonté. Ce n'est pas tant l'amour sympathie, mais c'est un amour volonté, un peu comme un amour sacrifice, amour choix. Amour choix. Ah, quelle est la différence, pasteur, entre l'amour sympathie et l'amour choix, l'amour volonté? Mais l'amour sympathie, c'est que vous aimez ceux qui vous aiment. L'amour choix, l'amour volonté, c'est que vous aimez celui qui n'est pas aimable. Sans se laisser abuser. Mais c'est ça la différence entre les deux. Nous avons au verset 2 une analyse, une belle analyse de l'amour de Christ. Hein? Au verset 2, Paul est marché dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Paul est en train de montrer ce que je viens de dire, à savoir que l'amour dont il est question ici, c'est un amour choix. Lorsque Christ a donné sa vie pour nous, nous étions encore des rebelles. Nous étions encore des pécheurs. Nous étions encore des gens qui résistaient à Dieu. Hein? Et c'est à ce moment-là que Christ est mort. C'est ce que Paul est en train de dire. Il donne une belle illustration, dis-je, de l'amour choix, de l'amour volonté. Le Christ a aimé l'homme qui n'est pas aimable. Le Christ a aimé l'homme qui n'est pas aimable. Depuis le jardin d'Éden, nous avons cessé d'être aimables. Nous avons trahi Dieu. Nous lui avons tourné le dos. Et nous n'avons pas reconnu sa bonté. Nous n'avons pas reconnu sa bonté en nous donnant la vie, en nous plaçant dans un jardin luxuriant. Nous avons préféré écouter la voix de menteur, un menteur par excellence, Satan le diable, l'adversaire le serpent. Et depuis, nous sommes dans le malheur et nous sommes ennemis de Dieu. Nous sommes en inimitié avec Dieu. Mais c'est pour ces gens-là que le Christ a donné sa vie au calvaire. Ainsi Paul dit, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. C'est pour ça que votre serviteur a dit d'entrée de Dieu. L'amour dont il est question ici n'est pas l'amour sympathie. Oh, j'aime cette personne-là. Elle est gentille, elle est une bonne personne. Et elle, comprenez-vous? C'est pas ça. C'est plutôt Quand cette personne n'a rien qui fait d'elle une personne aimable et nous l'aimons, et c'est là que nous aimons à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré ensuite pour nous. Paul dit que l'amour de Jésus nous purifie, hein, et cet amour, en prenant l'amour pour nous au calvaire, Christ l'a fait pour nous purifier, pour nous rendre saints et sans tache. C'est ce qu'il dit ailleurs. Donc, Paul est en train de dire que l'amour de Jésus est suffisant. L'amour de Jésus est suffisant dans le sens où l'amour de Jésus dépasse tout. Peut-être que nous ne réussirons pas dans notre marche chrétienne, dans notre marche ecclésiale. Peut-être que nous ne réussirons pas tous les jours. Nous ne ferons pas 100%. Nous prions pour avoir 100%, le défi nous est lancé, l'appel nous est lancé à vivre une vie de charité, d'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés tellement, qui s'est livré pour nous comme une offrande, un sacrifice, une offrande d'une agréable odeur à notre Dieu. Cela dit, au verset 3 à 7, Paul va donner quelques exemples concrets de l'amour. C'est ça, oui, la structure du passage. Et regardez bien, verset 1er, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Cela n'est pas clair. On ne sait pas qu'est-ce que Paul veut dire au verset 1er quand il dit devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. S'il s'arrêtait là, il manquerait quelque chose à sa pensée. Mais au verset 2, il avance d'un pas de plus en disant marchez dans la charité. Donc, comment nous imitons Dieu en tant qu'Église? Eh bien, c'est en marchant dans la charité. C'est en marchant dans la charité, parce que Dieu est un Dieu de charité. Par quoi Paul explique-t-il, par quel argument historique, spirituel, Paul explique que Dieu est un Dieu de charité, mais en ceci, qu'il a livré sa vie pour nous en sacrifice, comme une offrande d'une bonne odeur, par amour. Donc, il nous appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un amour de sacrifice, un amour sacrificiel, un amour choix, un amour volonté. Bon, c'est réglé. Maintenant, au verset 3, regardez bien la structure du passage, du verset 3 à 7, il va développer encore, je vous dis. Et c'est comme ça que Paul travaille, comme ça qu'il écrit. Cela dit, il va continuer à développer ce que l'amour fait, ce que l'amour ne fait pas. Paul commence par condamner quelques pratiques, quelques habitudes, quelques choix. Hein? Suivez-moi bien, c'est l'Écriture qui parle. Et au verset 3 à 7, Paul va, je dis bien, condamner quelques pratiques. Verset 3, que l'impudicité pratique, qu'aucune espèce d'impureté. C'est des termes voisins, hein? C'est des termes, je dirais, synonymes. Condamna, il condamne. Et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Pourquoi ça, Paul fait là? Paul est en train de vous dire, voici quelques exemples d'amour. Ah, il y en a d'autres. Ce n'est pas ça seulement qui montre qu'on marche dans l'amour ou pas, qu'on marche dans la charité ou pas, mais qu'à cela ne tienne, il donne quelques exemples. Tu diras que tu marches dans l'amour, dans la charité, lorsque l'impudicité, lorsque l'impureté, lorsque la cupidité ne seront même pas nommées parmi vous, voire pour t'as dit qu'on pratiquait. Voire pour t'as dit que l'Église là pratiquer l'impudicité, même nommer. Les gens qui ont parlé, ils ont fait blague, ils ont fait histoire, ils ont fait causerie, même mot ça, ils n'ont pas nommé. Les fidèles qui ont parlé, même mot ça, ils n'ont pas nommé. Sinon que pour les condamner, cela dit. Sinon que pour les condamner. Sinon que pour prier pour les gens qui les pratiquent. Mais quand tu as même nommé, Paul pas dit pratiquer, non, même nommer.
Oh.
Ainsi qu'il convient à des saints, c'est-à-dire à l'Église. J'ai expliqué dans la congrégation que le saint, c'est l'Église. Nous avons été sanctifiés pour être la demeure de Dieu, ainsi nous sommes l'Église. Ainsi qu'il convient à des saints. L'Église, le saint homme de Dieu, la sainte femme de Dieu, la sainte Église de Jésus-Christ, ne devrait même pas nommer l'impudicité, l'impureté. Il dit bien qu'aucune espèce d'impureté, parce qu'il y en a toutes sortes d'impuretés. Il y a impureté morale, il y a impureté sexuelle, il y a impureté, il y a toutes sortes d'impuretés, on est là. Ne soit même pas nommé parmi vous. Laissez les autres pratiquer ces choses. Laissez les autres nommer ces choses. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais toi, ce n'est pas ainsi que tu as appris Christ. Même chose au verset 4. Qu'on entende, voici l'amour. Voici des exemples d'amour. Parce que si on dit amour, ça peut rester un mot abstrait, sans substance, sans contenu. Le monde peut ne pas voir de quoi nous parlons. Ainsi, Paul se donne la peine de donner quelques exemples. Il faut comprendre que versets 3 à 7 sont en train d'expliciter versets 1 à 2. Avez-vous remarqué cela? Les versets 3 à 7 sont en train d'expliciter, de rendre clair, de rendre explicite, de rendre visible versets 1 à 2, sinon on ne comprendrait pas grand-chose. Paul ne veut pas laisser ses lecteurs, ses premiers lecteurs et ses seconds lecteurs comme vous et moi, dans l'incertitude quant à quoi faire avec les versets 1 à 2. Et alors, il donne quelques exemples de ce que cela veut dire, marcher dans la charité, marcher dans l'amour. Tu marches dans l'amour quand on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, chose contraire à la bienséance de votre bouche. Tu marches dans la charité. Lorsque tout ce qu'on entend, c'est des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Gloire à notre Dieu. Il y a quelque part au monde, dans l'église où il y a quelque part au monde, dans un groupe femme où il y a, un groupe d'hommes où il y a. Il y a quelque part au monde, dans le choral là. Il y a quelque part où l'on dans pastorat ou bien dans retraite pasteur. Il y a quelque part où l'on dans kaila, dans famille. Comment ça vous dit? Bon devoir. Bon devoir. Depuis qu'on parle créole, on est bagala. Regardez. Bon petit devoir fait semaine ça. Et pourtant, des gens prononcent son parole désagréable, dit frèmement, sèmement, c'est action de grâce là, ça. Parce que vous connaissez, ou pas dans mon cri, non? Ce n'est pas mon cri pour que vous non? Ou sous sérieux, oui? C'est-à-dire que vous avez une stratégie très simple, très inoffensive pour rappeler mon nom à vocation. Pour rappeler mon nom à vocation. Vous avez des amis là-là? Dit, ma soeur, c'est action de grâce là, ça? Soit pasteur, tout, dit une mauvaise parole, tout. Dit ça, le pasteur a dit ça. Dit, c'est action de grâce là, ça? Soudain des paroles, pasteur a dit une parole malséante, un propos insensé. Si pasteur a dit une parole déshonnête, vous me dites ça, m'autorisez. Pourquoi vous dites ça? Savez-vous pourquoi? C'est une manière de nous exhorter les uns les autres, une manière très inoffensive, très neutre, si tu veux bien, si vous voulez bien, très neutre de veiller les uns sur les autres. Oui. Nous faisons ça, oui. Dis ma soeur, si c'est la Kaila ou bien madame ou mari ou, petit, dis ma soeur, c'est action de grâce à ça. Dès que la Bible dit c'est action de grâce, c'est vos paroles assaisonnées de grâce. Vraiment, quoi que mon a bien content avec le papa fâché, la réfléchi, et puis, vous connaissez, il est quand même campé dans salle d'abdir. Peut-être pour toujours, ou même, en tout cas, pendant un moment. Refermons la parenthèse, mais c'est sérieux, je blague pas, non? Utilise cette stratégie. Bon, mon abjour, on a couru à l'abdou, n'importe parole, n'importe côté. Dis-moi des actions de grâce à ça. Parce que tu es appelé à rendre grâce. Pas oublier, non, Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie. Pas plaisante ou qu'on est. Non, là, je vais développer tout à l'heure. Là, là je n'ai pas mes notes encore. Là, je suis avec les versets. Okay? C'est pas plaisanterie. Pour le monde, pas de préférer plaisanterie. Non, là, c'est pas ça. Non, là, ça. Mais pas même plaisanterie à nous qui là. On reviendra là-dessus. Choses qui sont contraires. Ici, on parle de choses ou bien plaisanteries qui sont contraires à la bienséance. Notamment la bienséance spirituelle chrétienne évangélique. Ça va à l'église. Voilà. Regardez ce que le Saint-Esprit fait, frères et sœurs. Il parle d'impureté morale. Le Saint-Esprit dit que l'amour ne pratique pas l'impureté, d'abord sous sa forme morale. Le Saint-Esprit de Dieu dit que l'Église ne marche pas dans l'impureté morale, dans trois domaines. Les actes, ou bien les actions, le langage, la pensée. Trois domaines. Les actes impurs, verset 3. On l'a vu tout à l'heure. Pour les actes impurs, verset 3, l'amour s'abstient des actes impurs. Paul dit que la charité s'abstient des actes impurs. Premier acte impur, la fornication. La fornication, c'est quoi? Mais c'est, pour rendre ça simple, c'est les relations sexuelles inappropriées. OK? Le vrai terme, c'est illicite, mais on va dire inapproprié. Les relations sexuelles inappropriées. C'est ça, fornication. Relations sexuelles inappropriées. Il y a toute forme d'inappropriation d'une relation sexuelle. Il y a différentes formes d'inappropriation. Mais rester avec inapproprié, à moins qu'on pose question, on a regardé des différentes formes d'inappropriation, peut-être à travers vos questions. Il va parler aussi d'un autre terme, en l'occurrence l'impureté, qui va étendre jusqu'aux autres formes d'impureté morale. Les impuretés morales contre nature. Et plus tard, il va parler de la convoitise. La convoitise s'applique, parle des passions interdites. Toutes formes de passions interdites qui sont liées à l'activité sexuelle sous sa forme inappropriée. Paul dit qu'un homme de Dieu, que l'Église de Dieu, une femme de Dieu, ne devrait même pas mentionner ces choses-là. On peut en discuter, mais on en discute pour les condamner. Il convient de veiller à ce que, en tant qu'Église qui marche dans la charité, que Dieu continue de nous faire la grâce de ne même pas être soupçonné de marcher dans l'immoralité. L'Église, c'est l'épouse du Christ. L'Église, c'est la fiancée du Christ. C'est la raison pour laquelle l'Église est appelée à imiter Dieu. Parce qu'en imitant Dieu, en tout cas sous l'angle de la charité, l'Église réussit par la puissance de l'Esprit à se conformer à la volonté de Dieu pour elle. L'Église est appelée à la sainteté. L'Église est rachetée. Si l'Église était rachetée pour vivre encore dans quelque forme d'impureté morale ou autre, l'Église n'aurait pas besoin d'être rachetée. C'est ce qui est en train d'être dit ici. L'Église est appelée à la consécration, à être consacrée à celui qui a la racheté et à l'exemple de celui qui l'a racheté. Je répète, l'Église est appelée à se sanctifier pour celui qui l'a racheté. L'Église est appelée à se sanctifier à l'exemple de celui qui l'a racheté. Et l'Église est appelée à se consacrer à celui qui l'a racheté. Voilà le défi pour l'Église aujourd'hui. Voilà le défi que nous lance Saint Paul quand il dit marcher. D'abord, imiter Dieu verset premier. Et deux, copier ce bon Dieu. Copier bon Dieu, imiter bon Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les gens copier des mannequins, copier ci, copier ça. Et si le monde copiait Dieu? Et si le monde imitait Dieu? Et si l'Église elle-même, qui est le produit de la puissance de la grâce de Dieu, imitait Dieu? Le monde serait différent. Et on revient au langage pur. Pourquoi Paul ne se limite pas seulement aux actes illicites? Pourquoi Paul parle d'actes? Il parle de paroles, il parle de pensées. Paul parle d'actes en parlant d'actes sexuels illicites, on l'a vu ensemble. Il parle de paroles et il parle de pensées quand il parle de convoitise en tout. Pourquoi? Mais parce que nous sommes appelés, hein, nous sommes tentés plus souvent qu'autrement de nous laisser aller dans ces sens-là. Il y a des gens qui réussissent à s'abstenir, hein, d'actions impures, mais qui prononcent des paroles, des propos insensés, des propos impurs. Il y a des gens qui pêchent plus par le langage, par les paroles, que par les actes. D'autres, c'est le contraire. Alors, c'est la raison pour laquelle Paul considère ces trois dimensions de l'expression humaine. Action, pensée, parole. Il y a des gens qui réussissent, hein, à ne pas commettre des actes impurs, mais qui emploient souvent, peut-être plus souvent qu'autrement, un langage malséant, un langage qui n'est pas celui de l'Église. Et là, on parle de grossièreté, hein. Il y a des livres qui parlent de grossièreté pour parler de ces paroles, paroles malséantes, des grossièretés. Et Paul, lui, il parle de paroles insensées. En somme, Paul est en train de dire que ces paroles, les paroles insensées ne sont pas de l'amour, ne relève pas de l'amour, ne relève pas de la charité. Une église qui marche dans la charité s'abstient des paroles. Votre copasteur, non? Votre copasteur, non, en tout cas, c'est pas nécessaire. La langue est capable de grandes choses. Et quand nous disons que la langue est capable de grandes choses, nous parlons de grandes choses bonnes. La langue est capable de construire. La langue est capable de réparer. La langue est capable de guérir. La langue est capable de relever. La langue est capable d'encourager. Que sais-je encore? Vous connaissez ça peut-être mieux que votre
Décourager
pasteur.
aussi,
Vous
détruire.
connaissez ça mieux que votre pasteur. Mais c'est quand cette langue est utilisée à bon escient, quand cette langue prononce des paroles qui reflètent Dieu, des paroles qui imitent la parole de Dieu, quand c'est le contraire qui se produit, eh bien la langue va faire des ravages dans le sens contraire, va faire de grandes choses, mais dans le sens contraire. La langue corrompt, la langue détruit, la langue abaisse, la langue rabaisse, la langue décourage, et j'en passe. Paul utilise trois mots pour parler des actions impures. Et de la même manière, hein, vous vous rappelez ces trois mots-là, verset 4, attention, impudicité, impureté, cupidité, trois mots. Impudicité, impureté, cupidité. Il utilise trois mots, je dis bien, pour parler des actions ou bien des actes impurs. Et au verset 4, il va faire la même chose pour parler de paroles impures. Il va employer trois termes. Paroles déshonnêtes, paroles insensées, hein, c'est-à-dire paroles débridées, hein, ou bien malséantes, comme je l'ai dit. Et il va parler de plaisanterie. Mais comme je t'ai dit, ce n'est pas plaisanterie dans le sens quand tu dis on va faire une petite plaisanterie. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est plaisanterie, mais tu as plaisanté avant. Ce n'est pas de ça que Paul parle ici, OK? Plaisanterie pour Paul, c'est les sous-entendus qui se rapportent aux déviations sexuelles. Pour Paul, c'est ça plaisanterie ici, hein, dans ce contexte-là. C'est les sortes de sous-entendus ou d'entendus, qui sait, ou d'entendus, entendus ou sous-entendus, qui ont rapport aux déviations sexuelles. Et la parole de Dieu ne condamne pas la plaisanterie qu'on fait, qu'on m'habitue à faire, ou qu'on fait ce qu'on appelle l'humour. Dieu ne condamne pas l'humour, OK? Les petites blagues pour faire rire. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Pas oublier, non? Parce qu'il n'y a pas de l'exemple de faire petite plaisanterie, petite blague, non? Et l'humour est en quelque sorte est même divin. L'humour est divin. Pourquoi en quelque sorte? L'humour est divin. Et la parole de Dieu dit, un cœur joyeux est un remède. Hein? Un cœur joyeux est un remède. Et la joie relève de l'humour. Hein? Il faut détendre l'atmosphère. Il faut faire craser blague, non. Hein? Et saintement, sainement. Ouais? Donc, vous connaissez bien de quoi il est question quand Paul dit plaisanterie. Donc, on ne va pas dire plaisanterie, la Bible dit pas faire plaisanterie. C'est pas, j'ai expliqué en quel sens il est question de plaisanterie, de quoi Paul parle ici. Donc, okay? La seule chose, c'est qu'il y a de bonnes et de mauvaises plaisanteries. C'est ce qu'on est en train de dire ici plutôt. Il y a de bonnes et de mauvaises plaisanteries. Il y a des plaisanteries qui édifient, qui relèvent, qui détruisent, et qui édifient, et il y en a d'autres qui détruisent et qui rabaissent. C'est de ça qu'il est question, mes frères et mes sœurs. Paul parlera au verset 5 encore, car sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. L'oratoire, peuple du Seigneur, avez-vous remarqué ce que l'Écriture fait? L'Écriture dit que l'impudicité, l'impureté, verset 5, la cupidité est synonyme d'idolâtrie. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire, oh, c'est-à-dire, idolâtre n'a d'héritage dans le royaume du Christ. Paul donne la raison pour laquelle, au verset 4, Paul dit qu'on entende, même pas verset 4, au verset 3, Paul dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommé dans l'Église, parmi les saints, parmi l'Église. Et au verset 4, il renchérit avec ce qu'on a vu. Mais au verset 5, il donne la raison. Et Paul prend le temps de dire, sachez-le bien. Sachez-le bien, c'est comme prêter l'oreille. C'est important, sachez-le bien. À bon entendeur, salut. Aucun impudique, pourquoi il faut s'abstenir? Pourquoi l'Église a-t-elle besoin, en plus de devoir imiter son maître, son père, hein? En plus de devoir imiter son père, mais c'est aussi parce que aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. OK. Mais l'enseignement est clair ici. Il n'y a rien de doctrinal qui demande que je parle beaucoup. Tout est clair. Alors, je crois vous avoir déjà dit que quand Paul dit, je m'arrête un peu sur le verset 5. Je crois vous avoir déjà dit que quand Paul dit ici, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire aucun idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, Paul veut dire sans une repentance, en dehors d'une repentance. La grâce de Dieu est puissante pour pardonner le péché de l'impudicité, cela dit. La grâce de Dieu est puissante, est efficace, est suffisante pour pardonner la cupidité, cela dit. Ah, la grâce de Dieu est puissante, efficace, suffisante pour pardonner l'impureté, cela dit. Alors, quand Paul dit qu'aucun impudique, aucun cupide, aucun impur n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu, Paul veut dire une chose, à savoir que celui qui persévère dans ces choses à l'infini, il va dans l'enfer. Et celui qui persévère, vous savez, vous et moi, que celui qui persévérera dans ces choses à l'infini, eh bien, il n'est pas sauvé. S'il est sauvé, il ne va pas persévérer là-dedans à l'infini. Supposons que chrétien, l'Église t'a pratiqué ça. Et Paul est en train de dire que la plupart du temps, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu qui pratiquent ces choses-là. Paul est en train de dire que la plupart du temps, c'est ceux qui ne connaissent, c'est ceux qui rejettent Dieu qui pratiquent ces choses-là. Mais comprenez bien, si Paul s'est adressé à l'Église d'Éphèse pour lui en parler, c'est parce qu'il savait que l'Église d'Éphèse avait besoin d'en entendre parler, que ces choses du monde, hein, de la société païenne qui les entourait, du paganisme qui les entourait, avaient tendance à entrer dans l'Église. Et Paul a jugé nécessaire comme pasteur de le lancer une mise en garde par rapport à ce mode de vie-là. Première clarification que votre frère vient d'apporter sur le texte. Après l'ancien là pour Mounsayo, c'est si ou par exemple repenti. OK? Premièrement, si vous repentez, c'est réglé. Premièrement. Paul n'est pas en train de parler de la repentance ici. C'est pour ça qu'il n'a pas dit samedi à là. Paul n'est pas en train de traiter de la repentance. C'est pour ça qu'il n'a pas dit soem do là. Il a parlé dans l'autre bagage. Premièrement. Deuxièmement, l'Église, mais je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais juste le redire. Remarquez que Paul fait de l'impudicité, verset 5, je suis toujours à verset 5. Paul fait de l'impudicité, de l'impureté, de la cupidité. Il fait de ça l'idolâtrie. Paul fait de ça l'idolâtrie. Celui qui pratique l'impudicité est un idolâtre. Celui qui pratique la cupidité est un idolâtre. Et celui qui pratique l'impureté est un idolâtre. En quel sens, pasteur? Dans quel sens l'apôtre Paul? C'est au sens où bagaille sa yo vin bon Dieu moun nan. On est là? C'est au sens où moun nan fait de bagaille sa yo bon Dieu li. C'est son Dieu. C'est en ce sens-là moun nan devient adorateur de l'impudicité. Moun nan tellement impudique, moun nan tellement remè plaisir sexuel débridé. Les vignes sont esclaves, c'est bon Dieu. C'est en ce sens que Paul dit que Cupide sont idolâtres. C'est en ce sens que Paul dit qu'un impur et un impudique sont idolâtres. Parce que tout péché qui est lié à thème ça y est là, et même on en fait de péché ça y est, bon Dieu lit. Mais les vignes sont adorateurs, idolâtres. Voilà, je crois que c'est pas mal réglé pour le verset 5. Hein? Et au verset 6 à 7, maintenant, je crois qu'on est mûr pour passer au verset 6 à 7. Au verset 6 à 7, Paul y va d'une mise en garde. Paul y va d'une mise en garde l'oratoire. On est à verset 6 maintenant. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Pourquoi Paul, en invitant l'Église à marcher dans l'amour et en ayant pris le soin d'expliquer c'est quoi l'amour, même s'il ne dit pas tout, donne pas toutes les situations d'amour, mais il en donne quelques-uns, pourquoi il sent le besoin de dire que personne ne vous séduise par de vains discours? Pourquoi? Mais c'est parce qu'à son époque, il y avait des gens au sein des églises, il y avait des faux prophètes, il y avait des faux docteurs, il y avait des faux enseignants, il y avait des faux prédicateurs, des faux pasteurs qui disaient aux gens, pas occupé monde, bagaille ça, il n'y a pas de problème. Debout que l'amour dans le cœur, l'amour fait tout ça, l'amour se livre à la libéralité sexuelle, c'est ça qui compte. C'est en faisant ces pratiques sexuelles débridées là, c'est est-ce que tu aimes? Si tu aimes, voyez-vous, on est en présence d'une contre définition de l'amour de Dieu, de la charité. C'est ce que d'autres enseignaient. Et Dieu sait combien enseigne ces mêmes choses aujourd'hui. Dès que tu aimes, fais tout ce que tu veux. C'est l'amour qui compte. Pas occuper le monde qui parle de à l'église, de adorer, de prier, de jeûner. Pas occuper le monde, ça c'est religion. De pour aimer, ce que Dieu veut, c'est l'amour. Vive ta vie dès que tu aimes. Non. L'évangile dit non. L'évangile dit non. Son faux évangile qui dit, dès que tu aimes, fais ce que tu veux. Moi, je l'entends encore dans les livres que je lis. Dans les livres que je lis, je l'entends encore. Dès que tu aimes, t'es libre de faire tout ce que tu veux. C'est l'amour qui compte. Mais c'est ce que ces gens-là disaient. Mais eux, c'était plus grave. Eux, ils disaient cela. Ils prononçaient ce discours aux alentours de l'église et parfois même dans l'église, même par rapport à ces dérives que Paul a parlé ici, dont Paul a parlé, à savoir l'impudicité, hein, toute espèce d'immoralité, toute espèce de mauvais propos, etc. Tous ces gens-là disaient, ce n'est pas grave, en autant que tu aimes. Paul, et c'est pour ça que Paul dit, que personne ne vous séduise par de vains discours. Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que, je crois que cette exhortation paulinienne m'intéresse. Paul me dit ce soir de ne pas, de rester sourd, de rester avec l'oreille bétonnée, l'oreille cadenassée, vis-à-vis de tout enseignement qui fait quoi que dès qu'on aime, on fait ce qu'on veut. C'est l'amour qui compte, parce que Dieu est amour. C'est faux. Paul vous dit que personne ne te séduise par ce discours-là, car il est vain. Non seulement par ce discours-là, mais par d'autres discours encore, contraires à l'évangile. Et Paul en donne la raison pour laquelle il ne faudrait pas s'en laisser séduire. C'est parce qu'à chaque fois que Dieu manifeste sa colère, que ce soit contre Sodome, contre Gomorre, et que ce soit contre eux, eh bien, on peut prendre également, au temps de Noé, et d'autres occasions encore où Dieu manifeste, eh bien, sa colère contre les filles de la rébellion, c'est toujours pour des péchés de ce genre. L'Église du Seigneur, que personne ne s'insiste de vous séduire par de vains discours, nous dit l'apôtre Paul. Veillons en tant qu'Église du Seigneur à marcher dans la charité. Veillons à ne pas nous laisser impressionner, à ne pas nous laisser séduire. Ah, vous songez, l'aime t'es campé environnement dans lequel nous marchons. Tu te rappelles quand j'avais campé l'environnement dans lequel nous marchons? Ah, on a vu les différents discours. On n'a pas tout vu, bien entendu. Mais je vous ai fait un condensé, je vous ai fait un bon résumé, hein, des discours, des principaux discours qui caractérisent l'environnement dans lequel tu marches. Ah, ah, voyez-vous, vous ne voyez pas ça comme ça t'a fait. L'aime t'es campé environnement dans lequel tu marches là. Mais que ces discours-là, et d'autres encore, eh bien, ne vous séduisent pas. Ne vous laissez pas impressionner par ces vieux discours-là. Et surtout pas de les prendre pour toi, puis de les amener à l'église. Garde à toi, hommes et femmes de Dieu, de bagages qu'on s'adorait camper loin l'église. Pères et sœurs, mes bien-aimés, notre Dieu n'a pas changé. Son évangile n'a pas changé. Ses lois n'ont pas changé. Ses commandements n'ont pas changé. Il demeure saint, éternellement saint, 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 est l'éternel des armées. Et ailleurs, nous lisons sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Donc, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un jeu, cette histoire-là. Donc, Dieu nous appelle à élever les standards de l'évangile. Quand le monde baisse l'étendard, baisse le drapeau de l'évangile, par une vie, eh bien, on connaît, ressemblant à celle du monde, l'Église, la rachetée de Dieu, l'épouse de Dieu, la fiancée de Dieu, cette Église que Dieu a rachetée, que Dieu veut présenter, et que Jésus veut présenter à son Père comme étant saine, irrépréhensible, eh bien, elle doit relever le standard. Hein, on peut lever standard là, lever niveau A. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de baisser le niveau, c'est le temps d'élever le niveau. Hein. Ce n'est pas le temps de niveler par le bas dans la vie spirituelle, c'est le temps de niveler par le haut. L'Église est appelée à ressembler à son Dieu chaque jour davantage. Soyez des imitateurs. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Il est 59. Je devrais m'arrêter ici. Vous laissez le temps de poser une question ou plusieurs questions. Et puis, peut-être si vous avez une expérience à partager, une connaissance à partager, c'est bien le temps de le faire avant que je puisse prier pour, il y a plusieurs familles dans une dernière prière. Alors, c'est à vous, peuple de Dieu.